Bonjour, bonsoir, bonne nuit, chers auditeurs, vous écoutez Transistor, Il était une science, revient pour vous.
Et bonsoir Pauline, pour ce sixième déjà numéro d'Il était une science, et pour cet épisode, on revient vers le champ de la physique pour vous parler de la nature de la lumière.
Très bien, donc nous allons effectivement aborder le sujet passionnant mais complexe que représente la lumière, et notamment sa nature. Pour commencer, Nicolas, pourrais-tu nous donner en une phrase ou quelques phrases, de façon assez brève, une définition de la lumière?
Bah justement, pas vraiment. Là, on va, dans cette émission, on va essayer de cerner un peu mieux comment les physiciens ont compris de mieux en mieux la lumière. Mais là, je pense pas être capable de donner en une phrase de tout te révéler sur la lumière.
Très bien, donc tu vas nous dévoiler tes lumières sur la lumière et éclairer notre lanterne au fur et à mesure de cet épisode. Chers auditeurs, accrochez-vous, c'est parti.
Il était une science.
Alors, comme à notre habitude, on va commencer par vous faire un bref exposé historique. Pour une fois, on va pas commencer dans la Grèce antique, parce que on s'est rendu compte que les Grecs se sont pas spécialement intéressés à la lumière. Bon, ils s'y sont intéressés comme un peu tout ce qui touchait à la nature, ce qui était aussi de nature un peu philosophique, un peu divine. Ils avaient des questionnements autour de ça. Mais finalement, pas de grande théorie aristotélicienne ou platonicienne sur la nature de la lumière.
Du coup, Nicolas, à quel moment de l'histoire situerais-tu les débuts des interrogations scientifiques sur la lumière ?
Finalement, on a commencé dès la Renaissance. Et un peu après, avec les débuts de la mécanique avec Newton, mais aussi avec la création de la science de l'optique, grâce entre autres aux travaux de Descartes et de ses contemporains.
D'accord. Qu'est-ce que l'optique ?
Alors voilà, l'optique, c'est juste la Renaissance, après avec Galilée par exemple, les gens ont commencé à mettre au point des lunettes astronomiques pour voir au loin, ou pour voir en particulier le ciel, pour l'étudier plus précisément. Et donc il fallait mettre au point ces instruments d'optique qui fonctionnent avec des lentilles grossissantes qui vont permettre de manipuler la lumière en fait pour voir différemment de ce que nos yeux voient naturellement.
D'accord. Oui, donc finalement c'est intéressant parce que j'imagine que dans ce cadre-là, ils étaient intéressés, les scientifiques, les ingénieurs, par mieux connaître le ciel, comme tu dis, mais finalement peut-être mieux comprendre les étoiles, le soleil,
oui,
c'est-à-dire
oui,
finalement déjà des points lumineux.
Voilà, déjà, c'est ça. C'est un peu cette lumière-là, la lumière céleste, on va dire, qui a commencé à faire se poser des questions sur la lumière. Alors, les premiers travaux d'optique, en fait, ont visé à expliquer comment, justement, une lentille allait transformer le déplacement de la lumière, en fait. Il y avait cette idée, encore un peu vague, de déplacement de la lumière. Alors, s'il y a déplacement, à quelle vitesse la lumière se déplace, etc., ça, c'est des interrogations un peu vagues. Mais Descartes en particulier a réfléchi à la lumière et a décidé de voir la lumière en fait comme des faisceaux lumineux. C'est-à-dire qu'on a commencé à représenter les trajectoires lumineuses sous forme de lignes et par exemple Descartes a formulé des lois qui permettaient de prévoir le déplacement de la lumière dans certains milieux, par exemple au passage d'une lentille. Alors d'ailleurs, il y a une anecdote assez intéressante, une première controverse en fait sur le grand débat sur la lumière. On ne sait pas vraiment si c'est Descartes qui a découvert ces lois. En fait, il n'y a que en France, chauvinisme oblige, qu'on appelle ces lois de l'optique les lois de Descartes. Dans le monde entier, on les connaît sous le nom de lois de Snell, du nom de l'astronome, encore un astronome, de l'astronome hollandais Wilbrord Snellius. Alors, je ne sais pas si je prononce bien. Mais il y a un conflit d'antériorité en fait quant aux découvertes plus ou moins simultanées de ces deux savants sur ces lois de la réfraction qui permettent d'expliquer par exemple pourquoi à travers un verre d'eau les objets sont grossis.
Oui, donc Descartes, Snell, tu mentionnais le fait qu'il y avait déjà là une première controverse autour de la lumière et de sa mise en théorie scientifique. Donc finalement, je suppose qu'il y a d'autres controverses, d'autres discussions.
Voilà, et la grande controverse autour de la lumière, elle a commencé à peu près à la même époque, entre les deux physiciens, les deux grands physiciens, Christian Huygens et Isaac Newton, encore lui. Alors Newton avait un certain poids dans la communauté scientifique à l'époque grâce à sa découverte magistrale du principe de la gravitation et des lois de la mécanique en fait. Et dans la continuité de ses problèmes sur les déplacements des corps, il a considéré que la lumière, en fait, était faite de minuscules particules de lumière qui se déplaçaient de la même façon que les corps qu'on connaissait, que les objets matériels. Donc c'était vraiment une nature matérielle, une nature corpusculaire de la lumière. Et en face de lui, donc Huygens, lui considérait que la lumière, c'était une onde. Alors, une onde, qu'est-ce que c'est ? C'est un déplacement énergétique dans un milieu matériel, c'est-à-dire que ce n'est pas l'objet matériel qui se déplace, mais qui va se déformer et la déformation va se propager. Par exemple, c'est l'image d'une goutte d'eau qui tombe dans de l'eau. Il y a une onde qui va se propager à la surface de l'eau. C'est pareil pour la houle en haute mer, mais également pour le son qui est en fait une vibration qui est due à un déplacement de l'air.
D'accord, donc controverse finalement entre la théorie, comme tu dis, matérialiste presque, corpusculaire, et de l'autre côté, donc la théorie des ondes.
Voilà, la théorie ondulatoire. Mais, oui.
Et donc il y a un débat, cela dit, cela signifie qu'à l'époque, on connaît déjà ce que c'est qu'une onde.
Oui, exactement. L'onde. D'accord. Alors, il y a eu des travaux supplémentaires ensuite qui vont permettre d'ailleurs de renouveler le débat.
Mais du coup, on l'importe de quel domaine
Tout simplement, les ondes, elles sont observées depuis toujours, en particulier avec l'eau, en fait.
D'accord.
Il était bien connu que sur une étendue d'eau plate, il pouvait y avoir des déformations qui induisent des ondes et des déplacements.
Et comment finalement Huygens parvient à énoncer cette théorie.
Ah, c'est juste de la spéculation, de la même façon que Newton. Hein. Newton, il n'a pas tant d'arguments que ça pour appuyer sa théorie, ou en tout cas pas plus que Huygens. C'est juste qu'ils ont deux visions opposées, ou en tout cas très différentes, de la nature de la lumière que ni l'un ni l'autre ne peuvent remettre en question, en fait.
Ils ne peuvent pas étayer.
C'est de la spéculation, mais par exemple, le fait que la lumière se déplace en ligne droite, ça c'est le principe de Fermat, du nom du mathématicien français, la lumière se déplace en ligne droite, Snell, Descartes, leur loi fonctionne très 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 bien avec des rayons lumineux. Et en fait, ce déplacement en ligne droite semble donner raison à Newton, parce que dans le cadre d'une lumière composée de petites particules qui se déplacent en ligne droite, c'est cohérent avec les équations de la mécanique de Newton. On pourrait considérer, après tout, comme Huygens, que ce sont des ondes qui, pourquoi pas, se déplacent en ligne droite.
D'accord, donc du coup on a une nouvelle controverse très importante sur la nature de la lumière. Comment cela se résout-il ou se poursuit-il au moins ?
Alors justement, à cause ou grâce au poids de Newton dans la science de l'époque, c'est la vision corpusculaire de la lumière qui va être adoptée en tant que vision classique. Le statu quo va un peu perdurer jusqu'au début du 19e siècle.
D'accord, donc jusqu'au début du 19e, la vision classique s'impose, peut-être en raison principalement de l'autorité que représente Newton en science. Qu'est-ce qu'il se passe au début du 19e pour qu'il y ait une mutation dans les théories et dans le paradigme ?
En 1801, Thomas Young va proposer une série d'expériences pour discuter en fait le modèle de Huygens de la lumière comme onde. Et donc on savait par exemple que si on pose un obstacle en travers, au milieu par exemple d'une bassine d'eau, un obstacle percé d'un trou et qu'on envoie une onde en remuant le haut, en fait, cette onde va passer par le trou et être, on appelle ça diffractée, c'est-à-dire elle va être envoyée dans toutes les directions. On va passer, même si on a une onde qui arrive en ligne droite sur l'obstacle, passer le trou, ça va faire une onde qui s'étale dans toutes les directions.
Donc en fait, il y a dispersion.
Voilà,
elle se scinde et elle part dans plusieurs sens.
Et c'est le principe pour la lumière, on appelle ça le principe du Huygens-Fresnel. Donc Jung a essayé de mettre au point des expériences similaires avec des plaques opaques, donc qui freinent le déplacement, qui empêchent le déplacement de la lumière, percées de trous, et essayer de voir, ben, finalement, la figure lumineuse de l'autre côté, à quoi elle ressemblait. Et c'est les expériences qui sont restées célèbres, les expériences de Fante Jung, qui mettaient plus ou moins quand même en évidence une théorie ondulatoire de la lumière, quand même. L'anecdote qui fait un peu référence, qui est certes un peu romancée, c'est celle de la tache de poisson. C'est-à-dire qu'en 1819, c'est Augustin Fresnel qui présente son mémoire sur la théorie ondulatoire de la lumière, où il défend le point de vue du Huygens, et entre autres en compilant les résultats de Jung, etc., toutes les avancées modernes. Et il doit présenter ce mémoire face à un jury qui, malheureusement pour lui, est composé en particulier de partisans de la théorie corpusculaire, dont Laplace ou Arago, qui sont des grands physiciens de l'époque. Et Poisson, qui était également un défenseur de la théorie corpusculaire, a complètement démonté l'argument de Fresnel en lui disant « Mais ce que vous dites, c'est n'importe quoi. Si vous placez un obstacle devant une source lumineuse, et que vous placez un écran derrière l'obstacle, normalement vous allez avoir une tache sombre derrière l'obstacle, évidemment, mais selon votre théorie ondulatoire, en fait, les ondes devraient se regrouper en fait, et former une tache lumineuse au centre de l'ombre de l'objet. » Et donc Fresnel, assez embêté, ah oui, en effet. Et Poisson fait l'expérience pour lui montrer de cette manière que la lumière est bien corpusculaire, et stupéfaction, il y a bien une tache lumineuse au centre de l'ombre, ce qui remet complètement en question la théorie corpusculaire, puisque les corps se déplaçant en ligne droite, ils n'ont aucune raison de revenir au centre de l'ombre.
Bien sûr. En fait, là, et donc à ce moment-là...
C'est une anecdote complètement romancée, mais c'est assez rigolo. C'est un peu la plus grossière erreur de l'histoire des sciences, genre je vais vous montrer que ça marche pas.
Ah bah si. Donc là, la théorie corpusculaire était au crépuscule de sa vie. Hein.
Voilà.
Et que se passe-t-il ensuite?
Alors, que se passe-t-il ensuite? Eh ben, c'est la grande... C'est le grand remue-ménage parmi les physiciens. Enfin, pas tout de suite. C'est-à-dire qu'à partir de là, on va admettre que la lumière est bien composée d'ondes, et pour considérer qu'elle se déplace en ligne droite, on a fait des progrès en physique ondulatoire, en fait, et on sait que c'est possible, que les ondes peuvent se déplacer en ligne droite, plus de problème. Et on va développer les théories de la diffraction lumineuse tout au long du 19e siècle. Et à la fin du 19e siècle, les physiciens commencent à se poser des grosses questions. Parce qu'on l'a dit, une onde, c'est pas un déplacement de matière ou de corps ou de quoi que ce soit. C'est juste un déplacement énergétique dans un milieu matériel. C'est-à-dire que c'est un milieu qui se déforme et la déformation se propage. Et par rapport à la lumière, personne ne comprenait, personne ne savait quel était le milieu matériel. C'était clairement pas l'air, parce que dans l'espace, il n'y a pas d'air et pourtant la lumière du soleil nous parvient. On savait vraiment, vraiment pas ce que c'était. On avait commencé à mesurer la vitesse de la lumière, qui était extrêmement élevée. Il fallait que le milieu en question puisse propager une information à une telle vitesse. On était vraiment paumés. Et le coup de grâce est arrivé avec l'électromagnétisme de Maxwell. Les équations de Maxwell ont été mises au point dès 1861, mais elles laissaient entendre, elles étaient parfaitement vérifiées, et elles laissaient entendre que la lumière se déplaçait toujours à la même vitesse. C'est-à-dire que, imagine que tu es dans un train, Si tu es assise dans ton train et que quelqu'un te regarde depuis le quai, même si tu ne bouges pas, en fait, par rapport à lui, tu te déplaces. Et donc, il y a une loi de composition des mouvements en physique. Si tu te déplaces dans le train, par exemple, contre le sens de la marche, tu vas te déplacer moins vite, etc. Tu as des changements comme ça. Et par exemple, nous qui sommes assis dans le studio de Transistor, eh bien en fait, on se déplace puisque la Terre tourne autour du Soleil. Elle tourne même sur elle-même. Enfin voilà, on se déplace tout le temps par composition des vitesses. Mmh. Et pour savoir quel était le milieu matériel de la lumière, pour comprendre, en fait, c'était juste absurde de dire que la lumière se déplaçait à une vitesse toujours constante. Parce que, évidemment, la Terre se déplace, si elle se déplace à une certaine vitesse comparée à la Terre, elle se déplace avec une autre vitesse comparée au Soleil, par exemple.
Oui, bien sûr.
Et les équations de Maxwell disaient que non, que à chaque
fois,
quoi qu'il arrive, ça avait toujours une vitesse. Et c'était juste impensable parce qu'il fallait un milieu matériel derrière.
D'accord.
Et donc ça posait un gros problème. Les physiciens avaient dit non, mais on y a un milieu matériel qu'on peut pas détecter. On va appeler ça l'éther. Et puis la lumière, ça se déplace dans l'éther. Mais c'est pas grave, on peut pas détecter l'éther, mais on sait qu'il est là puisqu'il y a de la lumière. Tu vois, c'est un argument.
Ah oui, d'accord.
Un argument un peu.
Non, c'est peut sophiste, pas savoir.
Alors en particulier, une expérience historique, c'est celle de Michelson et Morley, qui a essayé de regarder un peu les propriétés de cet éther. En faisant une mesure optique sur une longue durée, c'est-à-dire entre deux moments de l'année, la Terre se déplace. Elle était censée se déplacer dans l'éther, et donc on aurait pu mesurer la différence de vitesse de la lumière. Si on avait observé une différence, les équations de Maxwell auraient été juste fausses, et tout aurait bien été, en fait. Et en fait, non, les équations de Maxwell, elles sont justes et les physiciens étaient vraiment paumés.
Remue-ménage et remue-ménage.
Voilà, exactement. De toute façon, la fin du 19e, le début du 20e, c'est le cauchemar pour les physiciens. Leur système fonctionne très bien, mais ils ne le comprennent plus du tout. Et dans divers domaines. Et c'est la panique.
D'accord, donc nous sommes au tournant du siècle.
Exactement.
Qu'est-ce que le XXe siècle va apporter aux débats, aux théories et aux remue-ménages?
En fait, le XXe siècle va apporter pas mal de choses. Et en particulier, il y a un point un peu secondaire, mais très important, de la théorie quantique, en fait, qui va permettre d'expliquer tout ça.
Donc rappelle-nous la théorie quantique, rapidement.
En fait, la théorie quantique, elle est assez compliquée à exposer. On fera peut-être une émission dessus.
Je note.
Mais là, le point qui est important, c'est que les physiciens du XXe siècle du début du XXe siècle vont postuler qu'en fait, tout le monde a raison. C'est-à-dire que la lumière serait à la fois une onde et une particule.
Donc ils pensent la non-incompatibilité
voilà,
des deux théories.
Exactement. C'est complètement lié aux travaux de Planck sur la théorie quantique. Planck va considérer, en fait, pour résoudre pas mal de problèmes de la physique, qu'en fait, notre monde, il n'est pas continu, que si on zoome suffisamment au niveau microscopique, en fait, le temps, l'espace, l'énergie en particulier, on peut les séparer en unités qui sont indivisibles. Et en particulier, l'énergie, il y a un quantum d'énergie, un quantum d'action que Planck définit. Et en fait, ce quantum d'action, il va être associé à une particule de lumière, une particule indivisible d'énergie lumineuse, que Planck va appeler un photon.
D'accord.
Et donc ça, c'est le photon, c'est la particule dont parlait Newton. Mais ensuite, le groupement de photons, tout ça, ça fait un ensemble de particules en fait, qui globalement forment une onde. Alors là, les physiciens, ils sont un peu... ils sont pas satisfaits parce que pourquoi est-ce qu'on parle d'ondes qu'il n'y a pas de milieu matériel autour ? Pourquoi on parle d'ondes ? Eh bien, en fait, parce qu'en mécanique quantique, malheureusement, on ne peut pas connaître, comme en mécanique classique, la position et la vitesse d'une particule à un moment. Et donc, on est obligé de visualiser une particule comme une onde, toujours. Que ce soit un photon ou, je sais pas moi, n'importe quoi, un micro du studio mobile. D'accord. Le micro du studio mobile, en mécanique quantique, en fait, c'est aussi une onde. Elle est très localisée, c'est-à-dire qu'on sait à peu près exactement où il est. Mais si on zoome, en fait, il y a une incertitude quelque part. Minuscule D'accord. par rapport à la taille du micro, mais elle est là quand même.
Du coup, tu disais justement qu'on avait affaire dans le cadre de la lumière à ce qu'on appelle des photons. Donc le mot photon fait inévitablement écho à un autre mot qui est photographie. Oui. Donc la lumière et la photographie, c'est lié.
Bah oui, complètement. En fait, ce qui se passe dans la vie de tous les jours, c'est qu'on voit jamais la lumière, les photons, les ondes, tout ça. On voit que des manifestations lumineuses, si j'ose dire. C'est-à-dire que là au-dessus de nous on a une lampe et je vois le micro encore du studio mobile. Ce micro serait très utile pour cette émission, j'ai l'impression. Je vois le micro du studio mobile, il est noir, et ben en fait c'est parce que la lumière qui est là-haut, elle tombe sur le micro et elle rebondit, en fait elle vient sur mes yeux, ensuite nerf optique, je vois la plaque photographique va remplacer tes yeux, c'est-à-dire que les photons qui rebondissent sur les objets qu'on souhaite photographier, par exemple un micro, ils vont arriver sur la plaque photographique et ils vont marquer la plaque. Mmh. C'est-à-dire que si la plaque reçoit de la lumière, ça l'impressionne et elle change de couleur et devient noire. Mmh. Et si elle reçoit rien, bah elle reste blanche. Et donc ensuite, tu as une image en négatif.
Oui.
C'est-à-dire que s'il y a eu de la lumière, c'est noir. S'il n'y en a pas eu, c'est blanc. Et ensuite, le traitement te permet d'avoir une photo. Ça, c'est pour la photographie en noir et blanc.
En noir et blanc, oui. Et du coup, la lumière, on le disait, finalement, n'a pas intéressé tellement d'emblée les anciens dans sa nature et son contenu. Donc l'interrogation est venue assez tard via aussi des considérations plus empiriques et expérimentales liées à l'optique, comme nous le disions. Mais il y a tout de même une constatation, c'est qu'on a commencé à produire ou reproduire de la lumière assez rapidement via l'électricité, les lampes, du coup. Donc il y a eu tout un processus qui s'est fait. Comment la lumière, l'homme parvient-il à finalement maîtriser tellement la lumière qu'il peut la produire ?
Bah, en fait, quand on produit de la lumière, nous et même le soleil, en fait, c'est toujours le même principe. C'est un peu comme cette émission sur la radioactivité que nous avons fait il y a déjà un certain temps. C'est que la lumière, c'est une radiation comme une autre. C'est-à-dire que la radioactivité, les ondes, c'est des ondes et des particules. Mais c'est pas dans la gamme de fréquences qui correspond à la lumière visible. Mmh. Mais c'est toujours pareil. C'est-à-dire que t'as une source de chaleur. Et qui va en même temps une source d'énergie qui va en même temps émettre une radiation lumineuse. Donc par exemple quand tu allumes un feu, t'as la combustion qui émet en plus de la chaleur un rayonnement lumineux et infrarouge. Dans une lampe, c'est un fil, par exemple de tungstène, tu passes un courant à l'intérieur, il y a une dissipation d'énergie parce que le tungstène est très très dissipatif en fait. Et cette émission de chaleur va s'accompagner d'une émission lumineuse. Et après, c'est comme tu veux. Le feu, ce qui t'intéresse, c'est plus la chaleur. Pour une lampe, c'est plus la lumière. Mmh. Mais c'est vrai que les deux sont à la fois chauds et lumineux, que ce soit une ampoule ou un feu. Ou le soleil même, qui est extrêmement chaud et extrêmement lumineux.
Bien sûr. Oui, cela fait finalement tout à fait écho, donc cette association indissoluble, cette imbrication tout à fait liée que le chaud et le lumineux, cela fait écho, je disais-je, au fameux mythe d'Icare, n'est-ce pas, qui fasciné par justement la lumière liée évidemment à ce symbole qu'est le soleil, se brûle les ailes.
Voilà. Et d'ailleurs, les physiciens aussi se sont un peu brûlés les ailes quand même quant à la nature de la lumière.
Oui, bien sûr, cela a mené ou a eu lieu dans le contexte d'un changement de paradigme, tout de même, comme tu disais tout à l'heure avec
le passage. Ça a été vraiment la révolution quantique du XXe siècle. Ça a vraiment ébranlé la physique. Elle en est ressortie beaucoup plus stable, en fait. Mais quand on pensait à la fin du XIXe siècle que la physique était une science morte, en fait, c'est-à-dire que les physiciens disaient, mais on a tout découvert en physique. Il reste 2-3 choses à expliquer, mais on va y arriver. Ils disaient tout ça. Et en fait, ces 2-3 choses ont remis complètement en question toute la physique moderne et ont amené des débouchés que les gens de l'époque ne pouvaient même pas imaginer.
Ça a réanimé la matière,
exactement,
en fait.
Et a permis des développements technologiques incroyables. Et donc peut-être pour finir, ce qui est vraiment un peu plus philosophiquement, ce qui est intéressant, c'est que finalement la lumière, c'est vraiment ça au quotidien, c'est vraiment la chose qui nous permet de nous rendre compte de notre environnement et de l'existence du monde autour de nous.
L'aveugle ne voit pas, il ressent, et paradoxalement, il voit.
Et c'est intéressant de voir qu'en physique, c'est ça, le débat sur la nature de la lumière, il a complètement amené le débat sur la nature de la réalité avec la physique quantique.
Bien sûr, la nature du rapport aussi de l'homme à la réalité, donc de la perception.
Exactement.
Comme tu le dis, très justement, donc l'émergence des théories scientifiques et les volontés d'expérimentation liées aux interrogations sur la lumière sont d'abord passées par l'optique, ce qui nous montre une chose, si j'ose dire, en utilisant d'ailleurs le mot montrer, c'est que la lumière passe forcément par l'appareil sensoriel lié à la vision, donc par rapport à la vue, en fait.
Oui, oui.
Donc,
Et en fait, ce qui se passe, c'est que, parce que la citation de SS-117, justement, elle nous dit qu'il n'y a pas que la lumière qui nous permet de nous rendre compte de notre environnement, mais c'est vraiment la lumière quelque chose de fondamental en particulier parce qu'en physique on a ce qu'on appelle des constantes fondamentales qui disent vraiment quelque chose d'essentiel sur le monde qui nous entoure, en tout cas dans les modèles physiques qu'on a choisis. Mais si on avait un autre modèle, ce serait une autre constante, mais derrière c'est toujours la même chose assez essentielle. C'est entre autres la vitesse de la lumière qui ne change pas, qui est vraiment intrinsèque à la lumière et à notre univers, et qu'en plus on retrouve dans énormément de domaines de la physique qui n'ont a priori rien à voir.
Merci Nicolas pour toutes ces explications qui ont été très claires. Désormais, chers auditeurs, vous pouvez éteindre la lumière, mais simplement votre ordinateur ou le podcast. Et pour ceux qui sont peut-être proche de se coucher, éteindre la lumière, bien sûr. Nous espérons surtout nous être montrés lumineux et non pas illuminés.
Ni obscur.
Tout à fait. Et maintenant, lumière sur ce que sera la prochaine émission.
Oui, parce que là, vous êtes en train de vous dire, mais pendant 15 jours, comment vais-je survivre sans cette émission de Transistor qu'est Il était une science ? Ne vous inquiétez pas, nous ne gardons pas la surprise, nous préférons vous spoiler en vous faisant attendre la prochaine émission. Nous allons partir de nos domaines de discussion habituels et vous emmener dans le champ des sciences naturelles avec l'histoire des théories de l'évolution. D'ici là, passez une bonne semaine sur les ondes de Transistor.